journal, Florence Paracuelos. Bonjour Florence.
Bonjour Ali, bonjour à tous. On n'a jamais autant parlé d'Europe, mais les jeunes s'en fichent, qui seront sans doute moins de 30% à aller voter dimanche, selon les sondages. On verra dans un instant comment certains essayent de convaincre leurs camarades. La surprise aux Pays-Bas, les Néerlandais ont déjà voté. Ils mettent une claque aux populistes, on les attendait en tête. Ils sont troisième. Les vainqueurs sont socialistes. Explications et projections au Parlement européen dans quelques minutes. À la une également, secrets et rancœurs d'un anesthésiste accusé d'empoisonnement. Le docteur Péchier a-t-il tenté de s'en prendre à une de ses collègues opérée à Besançon? La maison mère des supermarchés Casino plombée par sa dette. La Chine qui refait un trou dans la couche d'ozone, sera-t-il visible de l'espace? Ça, c'est le domaine de votre invité dans 20 minutes, Ali.
La tête dans les étoiles ce matin, dans le grand entretien de la matinale avec Christophe Galfard. Il est docteur en physique théorique. C'est l'un de ceux qui parle le mieux de l'espace. 50 ans après les premiers pas de l'homme sur la Lune, la NASA vient de préciser son calendrier pour y retourner. Objectif Lune, donc, tout à l'heure avec Christophe Galfard. Pour dialoguer avec lui, le 01 45 24 7000 et l'application France Inter.
Et puis du kéchiche typique à Cannes. Hier soir, corps dénudé et longue scène de sexe. Eva Bétan, qui n'est pas prude, a adoré.
France Inter.
Ils ont leur carte d'électeur. Pour certains, ce sera le premier scrutin de leur vie de citoyen, la première occasion de voter. Pourtant, on pourra compter les jeunes dans chaque bureau de vote qui ne devraient pas être plus nombreux qu'aux dernières européennes. À peine plus d'un quart des 18-25 ans avaient voté. D'où le dernier coup de collier d'Emmanuel Macron en fin de journée qui répondra pendant 45 minutes au jeune youtubeur Hugo Travers sur sa chaîne et sa page Facebook. Pendant que les jeunes de 7 fois je vote, initiative du Parlement européen, continueront, Mathilde Dehimy, à tenter de convaincre leurs semblables.
Ces dernières semaines, Flora, 23 ans, était surtout concentrée sur ses partiels.
Je ne me suis pas vraiment sentie très concernée par la campagne des européennes, en fait. Bah, personne vote autour de moi, fallait faire la procuration. Et puis bon, David, je lui ai dit que j'irais voter.
Flora a donc fait sa procuration et choisi sa liste après de multiples SMS et appels de son ami David. À 21 ans, il s'est engagé auprès du Parlement européen à inciter ses proches à aller voter sans donner de consigne de vote. Il pense avoir convaincu une vingtaine de personnes.
Il y a souvent cet argument, ça va servir à rien. La responsabilité, elle est multiple, elle est partagée. Les candidats, d'abord, qui ne parlent pas aux jeunes, en fait. S'ils exhortent les jeunes d'aller voter, mais on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas pour quel programme, encore moins pour quel programme jeune.
Un travail de longue haleine, dit David. La campagne a été trop rapide et les programmes manquent souvent de pédagogie, regrette-t-il.
On a l'impression que l'Europe, elle est acquise, notre génération, parce qu'on est une génération Erasmus. On est né en Europe, mais en fait, non, on est dans un contexte qui est assez difficile, où l'Europe est remise en question en permanence. Moi aussi, je suis pas satisfait de l'offre politique actuelle, mais si on va pas voter, quand est-ce que ça changera?
Un message que les ambassadeurs du Parlement européen répéteront encore à d'autres jeunes comme eux, notamment cet après-midi lors des marches pour le climat.
Et aujourd'hui, c'est au tour des Irlandais et des Tchèques de voter. Hier, le Royaume-Uni et les Pays-Bas avaient ouvert le bal. On ne sait rien du vote des Britanniques. En revanche, chez les Néerlandais, on attendait une victoire des populistes. Et c'est la surprise. Angélique Boin, bonjour.
Bonjour.
Vous qui suivez pour nous cette élection, Angélique, vous nous dites que finalement ce sont les travaillistes qui l'emportent, suivis par les eurosceptiques du FVD qui n'arrivent qu'en troisième, suivis par les libéraux, les eurosceptiques, eux n'arrivent qu'en troisième position.
Eh oui, ce sont des estimations sorties des urnes, estimations Ipsos pour la télévision néerlandaise. C'est inattendu, en effet. Frans Timmermans, le vice-président de la Commission européenne, qui menait cette liste dans son pays, aurait pu être sanctionné par les électeurs sur son bilan. C'est l'inverse, il obtiendrait 18% des voix. Le fait qu'il puisse accéder à la présidence de la Commission a sans doute pesé. Il est en effet tête de liste au niveau de toute l'Union pour les socialistes et à ce titre candidat à ce poste clé. Arrivé en deuxième position toujours selon Ipsos, le parti de gouvernement du Premier ministre libéral Mark Rutte obtiendrait 15% des suffrages devant donc les populistes de Thierry Baudet, troisième avec 11%.
Alors les socialistes en tête aux Pays-Bas, c'est une victoire pour le PSE, co-gestionnaire historique de l'Europe avec le PPE de droite, alors qu'on s'attend plutôt, Angélique, à voir les grands équilibres du Parlement chamboulés après cette élection.
Oui, alors il ne faut pas tirer de conclusion avec un seul pays, hein, mais cela indique quand même que les socialistes pourraient limiter la casse annoncée. Jusqu'à présent, ils comptaient plutôt sur l'Espagne de Pedro Sanchez. Alors les deux groupes, vous l'avez dit, ont l'habitude de se partager les postes importants au Parlement, se mettaient d'accord sur certains votes. Méfions-nous donc des sondages, Florence, mais les centristes et l'apport des élus macronistes pourraient bousculer ce duo, ainsi que les populistes, en particulier si ces derniers arrivaient à se regrouper. Et là, c'est pas gagné, hein, pour les observateurs, car s'ils partagent un même rejet de l'immigration sur d'autres sujets, comme les relations avec les Russes ou la distribution des fonds structurels, ces aides distribuées aux derniers pays arrivés et dans l'Union notamment pour se développer, eh bien ces groupes sont parfois aux antipodes entre les pays de l'Est et de l'Ouest en particulier.
Angélique Bouin en direct de Bruxelles pour France Inter.
Et direction Madrid maintenant, Florence, pour la suite de notre tour d'Europe de la campagne.
L'Espagne, où trois votes pour le prix d'un. Un mois après les législatives, les Espagnols voteront pour les élus européens, municipaux et régionaux. Les socialistes là-bas aussi sont donnés vainqueurs. Le parti de la gauche radicale Podemos est en perte de vitesse, mais il sera décisif dans le jeu des alliances à gauche comme dans la région de Madrid. Marie-Hélène Ballestero a suivi le dernier meeting de Podemos.
Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées hier soir au parc de la Bombilla à Madrid dans une ambiance festive et combative. María Eugenia Rodríguez Palop, tête de liste de Unidas Podemos aux européennes, a présenté le projet de sa coalition.
C'est un projet vraiment féministe, écologiste et qui est orienté vers la protection des droits de l'homme. Nous croyons qu'une autre Europe est possible et je sais qu'unis, nous pouvons changer l'Europe.
Le meeting international d'hier soir s'inscrit dans le cadre de l'Alliance européenne « Maintenant les peuples » qui a vu le jour l'année dernière. Éric Coquerel de la France Insoumise était présent à Madrid.
Notre présence est indispensable parce que nous refusons que l'alternative soit l'extrême marché ou l'extrême droite. L'Union européenne aurait dû être la solution à nos problèmes. Au contraire, elle est le cheval de Troie du néolibéralisme.
Hier, on a beaucoup parlé d'Europe, mais aussi du triple scrutin qui aura lieu dimanche en Espagne, européen, régional et municipal. Pablo Iglesias, secrétaire général de Podemos, est revenu sur ce super dimanche électoral et le besoin de nouer des alliances.
Le temps des gouvernements à parti unique est fini. On doit faire des compromis, dialoguer et se mettre d'accord pour qu'enfin, dans ce pays, on puisse avoir un gouvernement qui représente une lueur d'espoir en Europe.
Vainqueur des élections législatives il y a près d'un mois, les socialistes doivent former un gouvernement et Podemos espère pouvoir y entrer. Madrid, Marie-Hélène Ballestero, France Inter.
En France, où la campagne se termine ce soir, Jean-Luc Mélenchon, en meeting près de Lyon, a battu le rappel des Gilets jaunes. Bien sûr, vous êtes fâchés, mais ne faites pas les fachos parce que vous jouez contre vous-même, a lancé le patron de la France Insoumise. Et puis hier soir, ultime débat sur BFM TV, on en retiendra entre autres cette phrase de Benoît Hamon sur l'ombre de l'extrême droite qui s'étend. Une forme d'Anschluss de ses idées sur la droite traditionnelle, dit-il, référence à l'annexion de l'Autriche par les nazis en 1938. L'Europe du fromage où le chacun pour soi, l'Italie refuse de voir filer son parmesan Nueva Castelli chez le français Lactalis, qui a déjà racheté Parmalat et 5 autres enseignes italiennes de produits laitiers. Il faut mettre un terme à l'hégémonie française, alerte le grand syndicat agricole italien. En France, Rally vient d'être placé en procédure de sauvegarde. Rally, ça ne vous dit rien, mais c'est la maison mère du groupe Casino. 12 000 magasins à travers le monde, 220 000 salariés, dont ceux de Monoprix ou de Gosport. Laurent Kramer, le problème de Rally, c'est sa dette. On parle de plusieurs milliards d'euros, ce qui a plombé l'action du groupe hier. On verra ce qu'il en est aujourd'hui. En tout cas, cette séquence, Laurent, ne sera pas indolore.
Oui, le groupe Casino espère que le calme va revenir tout d'abord sur les marchés. Aujourd'hui, chahuté lui aussi par les spéculateurs. Et surtout que son propriétaire Jean-Charles Naouri, le groupe Rally, ne sera pas découpé en pièces pour rembourser cette dette. Avec cette procédure de sauvegarde, le propriétaire de Casino est désormais sous la tutelle de ses créanciers, avec près de 3 milliards d'euros à rembourser. Les banques pousseront à de nouvelles décisions stratégiques, à de nouvelles cessions d'actifs. Casino a déjà cédé les murs des magasins Monoprix pour 1,5 milliard d'euros, mais reste propriétaire de Leader Price, Cdiscount et de la marque Monoprix. Le propriétaire de Casino dispose aujourd'hui de 18 mois de calme pour envisager toutes les options, vendre une nouvelle enseigne de son portefeuille, option qu'il a jusqu'ici refusé d'envisager.
Laurent Kramer, 24 personnes empoisonnées dans des cliniques de Besançon entre 2008 et 2017. 9 en sont mortes, intoxiquées par les produits qui se trouvaient dans leur perfusion d'anesthésie. Le suspect s'appelle Frédéric Péchier, il est médecin anesthésiste. Il était manifestement en conflit avec ses collègues de la clinique Saint-Vincent et l'on découvre qu'il a peut-être tenté d'empoisonner une de ses consœurs. Le docteur Catherine Nambeau en est en tout cas persuadée, comme le raconte son avocat maître Alain Dreyfus-Schmidt au micro de France Bleu Besançon.
Ma cliente devait en effet être opérée d'une opération assez bénigne à la clinique Saint-Vincent et c'est monsieur le docteur Péchier qui devait s'occuper de son anesthésie. Elle était en deuxième position et puis l'ami de ma cliente, un autre anesthésiste, était sur place, donc il lui a dit, écoute, puisque je suis là, je peux peut-être t'anesthésier. Elle a dit d'accord et à ce moment-là, elle a pris la première place sur la liste d'attente des anesthésies du matin. Tout s'est très bien passé pour elle, merci. Malheureusement, pour la dame qui était en première position, mais qui finalement sera opérée en seconde position, ça se passera moins bien, puisqu'elle décédera des suites précisément de l'anesthésie. On peut donc en déduire assez facilement que, évidemment, c'était ma cliente qui était visée, et que si son amie n'était pas intervenue à la dernière minute, eh bien, ma foi, évidemment, elle ne serait sans doute plus là pour en parler, puisque, comme on le sait, celle qui a pris sa place en second est décédée. Dans le cadre de l'anesthésie.
Et Frédéric Péchier nie tous les faits dont on l'accuse. On croyait la couche d'ozone sauvée depuis des années. Le trou qui se trouvait au-dessus de l'Australie s'était même refermé. Mais voilà, la Chine ne joue plus le jeu avec ses usines de CFC-11. C'est un matériau utilisé pour isoler les maisons parce qu'il est très efficace, alors qu'il est banni de la surface de la Terre depuis 2010. Les scientifiques qui publient leurs résultats dans la revue Nature s'en sont rendus compte grâce aux images satellites, Sophie Bécherel.
On croyait tenir le bon bout, on se félicitait des vertus du protocole de Montréal, signé à l'échelle internationale en 1987. Patatras, la Chine, par ses besoins en construction individuelle, met à bas ses efforts. Alors que la couche d'ozone était en train de se réparer, les satellites ont repéré en 2013 une inversion de la tendance. Les scientifiques ont cherché la cause. Ils ont trouvé une source émettrice de 7000 tonnes par an, située dans le nord-ouest de la Chine. Couplée aux observations depuis l'espace, des stations de mesure au sol installées à Taïwan, au Japon et en Corée du Sud ont permis d'identifier une production anormale de CFC-11, le trichlorofluorométhane. Pour obtenir confirmation, l'agence d'investigation environnementale s'est rendue sur place. Elle a en effet identifié les usines qui fabriquaient ce gaz en grande quantité. Peu cher et très efficace dans la mousse de polyuréthane, il serait présent dans 70% des isolants consommés sur le marché intérieur chinois. Voilà qui a de quoi inquiéter. Dans la mesure où la Chine ne semble pas plus embarrassée que cela de violer un protocole qu'elle a pourtant signé, en toute logique, elle s'expose à des sanctions.
8h13 sur France Inter. Une question, Florence. Comment reconstruire la charpente de Notre-Dame?
Mais oui, avec du béton, avec de l'acier ou du bois pour remplacer cette forêt disparue pendant l'incendie du 15 avril. Il ne faut pas aller chercher très loin, dit Pascal Prunet. C'est l'un des 4 architectes en chef des monuments historiques de l'équipe de maîtrise d'œuvre de la cathédrale. Il faut, dit-il, une nouvelle charpente en bois.
La charpente, déjà, les premières discussions qui ont lieu avec les ingénieurs montrent que l'usage du bois est probablement la bonne solution pour la souplesse, pour la relative légèreté du matériau, finalement. Et on sait aussi, par un certain nombre de contributions récentes, que trouver les bois pour reconstruire la charpente, ça n'est pas un problème, et ça ne sera pas un problème écologique non plus, par rapport au gisement de ressources que constituent les forêts françaises. Évidemment, il va y avoir un projet. Aujourd'hui, on connaît absolument la charpente existante. Il y aura forcément un débat, et on ne pourra pas éviter ce débat sur le projet, vers quoi aller, mais a priori, tout permet de considérer qu'on peut reconstruire la charpente telle qu'elle était, où elle était, comme le disait Jean-François Lagneau, pour reprendre la formule italienne qui avait été utilisée pour le campanile de Saint-Marc de Venise après son effondrement.
Voilà, Pascal Prunet, architecte devant l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques du Sénat. Elle avait été sauvée in extremis il y a un an de son périple sur l'Himalaya. Son compagnon de cordée, d'ailleurs, en était mort. Elisabeth Revol, l'alpiniste française, figurez-vous, est remontée sur le toit du monde hier. On ne l'apprend que ce matin. Enfin, à Cannes, la sensation Kechiche. Hier soir, certains ont apprécié son nouvel opus de Mektoub My Love, d'autres pas, qui sont sortis pendant une interminable scène de cunilingus. 13 minutes tout de même. Abdelatif Kechiche est coutumier du fait, ce qui n'a pas gâché le plaisir d'Eva Bétan.
Si l'on s'en tenait à la définition « un bon film, c'est une histoire et encore une histoire », alors le film de Kechiche ne serait pas un bon film. Eh bien, désolé, c'est un sacré film, c'est une plongée en apnée, un bain de jouvence. Kechiche a un seul sujet, la splendeur des corps, la sensualité de la jeunesse. Il filme des hommes musclés, des femmes rondes, et sa caméra marque une prédilection pour les hanches et leurs prolongements filmés de dos. C'est le même groupe de jeunes que le film précédent, et à nouveau, une vacancière vient les rejoindre. Une parisienne aussi blonde qui sont bruns, aussi seuls qu'ils sont un groupe, sa fonction d'étrangère étant de faire ressortir leur pouvoir d'attraction. Il y a moins de récits que dans le premier volet. Kechiche semble simplement vouloir passer du temps avec eux. Nous sommes dans une boîte de nuit et ça dure, et on est happé. Que s'est-il passé? La caméra est virtuose, elle est partout. On croit qu'il ne se passe rien, mais il se produit toute une circulation d'affects, de désirs. Le désir donnera lieu à une scène de sexe qui fera certainement parler. Juste dire qu'elle s'inscrit dans un moment de vie et qu'elle n'est pas gratuite. Abdelatif Kechiche est un immense réalisateur et un diable. Il veut ni plus ni moins voler la vie. À Cannes, Eva Bétan, France Inter.
Voilà, Kechiche, loin du classicisme de Marco Bellocchio et son film sur la mafia présenté hier soir. Ce soir, place à la Française Justine Triette et au Palestinien Elia Souleymane avant le palmarès. Demain, Ali. Demain samedi.
Et commenté dès 19h sur l'antenne de France Inter dans le Masque et la Plume, émission spéciale depuis Cannes. Merci Florence Paracuelos.